Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, sans maître, sans publicité, la radio de la Fédération anarchiste. La société dans tous ses états est en train d'arriver, c'est le fichier qui met un petit peu de temps à se charger. Mais ça vient. Oh là là, j'ai peur qu'il soit vraiment un petit peu long ce fichier. Je n'ai pas de disque sous la main pour vous faire patienter. Tu as des choses à dire, Mohamed, peut-être?
Oui. Bonjour, c'est Mohamed, la société dans tous ses états. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui, veille de solstice d'hiver, un thème qui sera raccord, je pense. Hein. C'est Jean-Loïc Lequellec que vous allez découvrir pour son livre La caverne originelle, qui traite donc du mythe de l'émergence originale et du pourquoi les êtres humains du paléolithique, donc il y a vraiment très longtemps, 40 000 ans et quelques, sont allés au fin fond des grottes pour les peindre, les orner. On va essayer avec notre invité de comprendre cet art pariétal. Bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Radio Libertaire 89.4, la voix sans Dieu ni maître de la Fédération anarchiste. Donc 89,4 MHz en région parisienne et puis radio-libertaire.org dans le reste du monde. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jean-Loïc Lequellec. Bonjour Jean-Loïc.
Bonjour.
Et puis avec moi pour cette discussion, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau quelqu'un que vous commencez à connaître maintenant, qui est Christophe Darmangeat. Bonjour Christophe.
Enchanté.
Alors, Jean-Loïc Lequellec, je te remercie d'avoir répondu positivement à cette invitation à l'occasion de la sortie de ton livre « La caverne originelle, art, mythe et première humanité » qui est paru à la découverte dans la collection « Sciences sociales du vivant ». D'abord, quelques mots pour te présenter. Tu es un spécialiste de l'art rupestre, du Sahara, c'est
oui,
ça
oui.
Tu viens de Vendée.
Oui.
Tu t'es intéressé aussi à la culture vendéenne.
Oui, 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 aux traditions orales.
Voilà. Et puis tu t'intéresses aussi à la mythologie.
Oui.
Aux mythologies
Oui, aux mythologies en général, à la mythologie en général. Oui.
D'accord. Et donc, dans cet ouvrage, tu racontes et tu expliques un peu quels sont les modalités d'approche de ce qu'on appelle l'art pariétal, c'est-à-dire en gros tout ce qu'on peut trouver sur les parois, les peintes des grottes ornées. D'abord, pourquoi tu t'es intéressé à cette question des grottes ornées et quel a été ton cheminement pour aborder cette question?
Ça fait très longtemps que je m'intéresse à l'art rupestre en général, l'art préhistorique. Voilà. Tous les arts rupestres ne sont pas préhistoriques, il y a encore des gens qui font de l'art rupestre aujourd'hui. Hein. Mais voilà, je m'intéresse aux arts rupestres en général. Et quand il s'agit de l'art préhistorique, ou d'art en tout cas suffisamment ancien pour qu'on n'ait pas de témoignage oral, la question c'est toujours de se dire, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ces gens-là, qui nous ont laissé ces images, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, quelles étaient leurs motivations. Et donc moi, comme je m'intéresse par ailleurs à la mythologie et aux traditions orales, l'idée c'est d'essayer de connecter les deux et de se dire il y a des images, sans doute qu'il y avait des paroles qui accompagnaient ces images, est-ce que c'est possible de retrouver les paroles qui ont motivé les images? Voilà, c'est ça la base de ma motivation à moi.
Alors, c'est un recueil qui fait, un livre qui fait plus de 800, 900 pages. Alors, je dis tout de suite à nos auditeurs, ne vous laissez pas intimider par l'épaisseur du bouquin. C'est passionnant de bout en bout. Ça peut se lire par petits morceaux. Il y a des chapitres qui ne sont pas vraiment indépendants les uns des autres, mais on peut les prendre les uns après les autres, même tranquillement. C'est vraiment une merveille d'écriture et de d'érudition. Tout d'abord, tu fais dans une première partie un petit peu un historique sur comment on a appréhendé et à partir de quel moment on commence à s'intéresser à cet art pariétal, à cet art de la préhistoire.
Oui, j'ai pensé que c'était nécessaire parce que, en fait, quand on parle de l'art des cavernes, puisque c'est ça le sujet, de quoi on parle exactement et qu'est-ce qu'on voit dans les cavernes? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Parce que c'est assez difficile, en fait, de savoir et de s'informer là-dessus, vu qu'il y a plein de livres qui paraissent, c'est typiquement un livre de Noël, hein, les belles photos de Lascaux, de la grotte Chauvet, bon. Mais c'est assez trompeur parce que c'est des photos qui sont sélectionnées et ce qu'on a dans la tête, ce qu'on a, disons, la vision commune qu'on a des images des cavernes, elle est très biaisée en réalité par le fait que dans les publications on sélectionne les belles images. Voilà, les images lisibles d'abord, parce qu'il y en a beaucoup qui sont très difficiles à lire quand on n'est pas spécialiste de ces affaires-là. Et donc ma première question, c'est de dire, bon, avant de commencer à essayer de vouloir interpréter, de savoir ce que ça veut dire, etc., de quoi parle-t-on? Combien il y en a? Des questions toutes simples, hein. Combien il y en a? Qu'est-ce qui est représenté? Qu'est-ce qu'on voit exactement? Des animaux? Quels animaux? Voilà. Et puis essayer de mettre un peu des chiffres là-dessus, des proportions. Bon, voilà. Essayer d'avoir une approche objective de toutes ces données. Sachant que ce qui a participé de ma démarche aussi, c'est une surprise qui est de se dire, en France, on est très fiers de l'art de Lascaux, la Grotte Chauvet maintenant, Kosker. Il y a beaucoup de reportages, beaucoup de films, etc. Et on est vu à l'étranger comme des grands spécialistes de ce genre de domaine. Mais si on cherche à savoir ce qu'il en est réellement, par exemple, il n'y a aucun site officiel qui recense l'ensemble des grottes ornées de France.
Ah oui.
Où s'informer? Eh ben nulle part. On va soumettre le site du ministère de la Culture ou voilà, des questions simples du genre, bon, il y a des chevaux parmi les images. Combien il y en a? Est-ce qu'il y en a dans toutes les grottes? Question très simple. Impossible de répondre. Il n'y a aucun endroit où on va vous donner cette réponse. Donc c'est la raison pour laquelle je me suis dit, bon, si la réponse elle est nulle part, moi je vais essayer de faire une base de données, je vais essayer de regarder d'un peu plus près pour voir vraiment de quoi on parle.
À quelle période remontent ces peintures, ces gravures, cet art pariétal des grottes? On a une idée comme ça, parce que donner une échelle de temps, c'est quand même intéressant et important pour... Pour situer les choses.
Pour l'art des cavernes, c'est ce qu'on appelle le paléolithique final. Paléolithique final, il se termine lui-même quelque chose vers 12 000 ans avant nos jours. Et les plus anciennes images, alors les datations, c'est tout un monde aussi, ça peut être discuté. Il y en a qui sont un peu approximatives. Très peu de grottes, en fait, sont ornées. Mais le consensus, c'est de dire qu'en gros, ça commence à partir de 40 000. Voilà. Donc 35 000, 36 000, un peu plus. Mais disons, à partir de 40 000. Avant, on n'a rien de figuratif, c'est-à-dire rien que nous puissions reconnaître. Il y a des graphismes avant, voilà, mais...
Des graphismes, c'est des traits...
On voit que c'est fait par des humains, il y a des traits, des points, des quadrillages qui peuvent être plus anciens, à la fois dans les cavernes et un peu partout dans le monde, mais on ne peut pas trop en dire grand-chose, parce que c'est tellement... des figurations tellement simples qu'on retrouve un peu partout, et on n'y reconnaît rien, nous, à part des traits. Bon. Tandis que le moment où on a des images que nous pouvons reconnaître... Genre, on reconnaît un mammouth, on reconnaît un bison. On ne sait pas trop pour quelle raison ça a été dessiné, mais au moins on reconnaît ça. Ça ne commence pas avant 40 000 ans avant notre ère.
En préparant cette émission et en discutant avec un ami, il m'a parlé d'une grotte dont je n'avais jamais entendu prononcer le nom, Bruniquel.
Oui.
Et il m'a dit, oh là là, ça remonte à...
Oui, alors ça c'est beaucoup plus ancien, elle est devenue célèbre assez rapidement ces dernières années parce qu'on y a découvert, disons, un aménagement très étonnant, composé de gros blocs, des morceaux de stalactites qui ont été brisés, et parfois très lourds, des gros gros morceaux vraiment, et qui ont été organisés, déplacés, empilés, de manière à faire un très grand cercle à l'intérieur de la grotte. Et vu les datations, ça, c'est probablement Néandertal qui a fait ça. Mais ça, c'est pas de l'art graphique. Là, dans le livre, je ne m'intéresse qu'à l'art graphique. Évidemment, c'est pas tout l'art préhistorique. Il y a beaucoup d'art, beaucoup de témoignages artistiques qui ont été découverts en dehors des grottes. Il y a de l'art mobilier, c'est-à-dire des petits objets sculptés, des petites gravures, des petites sculptures, voilà. Qui, par définition, mobilier, ça veut dire, ça peut se déplacer. Bon. L'art des grottes, il est particulier parce qu'on peut pas le déplacer. C'est sur une paroi, c'est inamovible. Et donc là, ça permet de réfléchir un petit peu différemment, c'est-à-dire de se dire, pour quelle raison des gens ont été s'embêter à aller dans une grotte où c'est quand même, il fait noir, c'est pas facile, ça peut être dangereux. Et pour quelle raison s'embêter à aller faire des images dans des grottes alors que bon, c'est assez facile de les faire à l'extérieur quand même.
Et justement, tu disais que tu avais fait donc une base de données qui te permettait d'avoir une vision, disons, synthétique de tout ça. Si tu devais dire en quelques phrases, finalement, ce qui caractérise cet art, qu'est-ce qui en sortirait ?
Alors, ce qui en sort déjà, c'est que, disons qu'on a la moitié des graphismes, hein, c'est-à-dire des tracés faits par les humains, qui sont des tracés géométriques, desquels, les préhistoriens, ils appellent ça des signes. J'aime pas trop ça, parce que signe, ça veut dire que ça signifie, on n'en sait rien en fait, peut-être ça signifie, peut-être pas, bon, en tout cas, des tracés, la moitié, c'est des tracés qu'on ne sait pas reconnaître. Donc, moi, j'en parle pas, parce que qu'est-ce qu'on peut dire ? Rien d'autre que simplement dire, ah ben là, il y a un tracé, il y a une croix, il y a un rond, il y a des traits parallèles, des ponctuations, bon, voilà, après, on ne peut rien dire. On peut commencer à dire des choses quand... sur l'autre moitié des images, c'est-à-dire celles que nous pouvons reconnaître. Et là, disons que, grosso modo, il y en a quelque chose comme 10 000 voilà, qu'on peut reconnaître. On peut reconnaître un cheval, on peut reconnaître un bison, on peut reconnaître un mammouth, on peut reconnaître parfois des êtres humains, voilà. Et donc, disons que là, c'est très important, parce que ça veut dire que, quand même, sur l'ensemble des manifestations graphiques dans les grottes, il y en a la moitié, c'est quand même énorme, qui nous laisse, disons, pantois, on ne sait pas quoi dire à leur propos. Et on ne sait même pas si c'est lié à l'autre moitié, si tout ça forme un ensemble cohérent. Bon, c'est difficile de réfléchir sur cette partie-là. Donc moi, je me suis occupé, évidemment, que de la moitié reconnaissable de nos jours.
Alors, quand tu cites ces chiffres, tu dis environ 10 000 représentations, 10 000 peintures ou en tout cas images qu'on reconnaît. Elles sont où ces 10 000 ? C'est uniquement en France ? C'est en Europe ? C'est dans le monde ?
Alors, dans le monde, mais le monde, là, c'est essentiellement la France et l'Espagne.
Ouais.
Après, il y en a en Italie, des grottes ornées, voilà, il y en a en d'autres endroits du monde, mais très très peu. Je ne vais pas dire que c'est négligeable, ce ne serait pas gentil pour vos camarades italiens, par exemple. Mais il y en a en Oural, il y en a en Roumanie, il y en a quelques-unes, mais c'est vraiment des points.
Indonésie aussi, tu en parles dans ton livre ?
Pardon ?
En Indonésie ?
Oui, en Indonésie. Il y a quelques points comme ça, alors ça qui sont intéressants, mais quand on regarde la carte du monde, c'est absolument massif, le phénomène, en Europe occidentale, et particulièrement en France et en Espagne.
Est-ce qu'il y a une raison à cela ? Est-ce que c'est parce qu'ailleurs, on ne les a pas cherchés ? Ou alors est-ce que...
Il y a ça. Parce que c'est vrai qu'en plein d'endroits, on n'a pas vraiment cherché. D'une part, il faut chercher. D'autre part, il faut que les gens qui cherchent soient des gens qui soient capables de reconnaître les images. Et ça a l'air très bête de dire ça. Parce qu'on peut se dire, enfin quand même, s'il y a un mammouth dessiné, n'importe qui va dans la grotte va le reconnaître. Non, parce que ce qui le montre bien, c'est que la première découverte, qui est celle d'Altamira, il y avait un préhistorien qui travaillait dans la grotte depuis pas mal de temps, qui s'appelait Marcelino Sanz de Sautuola, préhistorien, qui savait très bien qu'il y avait un art préhistorique mobilier et qui a travaillé tout un temps dans la grotte sans voir, absolument sans voir, qu'au plafond, il y avait les fameux bisons d'Altamira. Et ça, c'est sa petite fille de 8 ans qui, un jour, l'a appelé en disant « Papa, viens voir, il y a des trucs au plafond, on dirait des bœufs. » Et donc, c'est très facile de passer à côté, en fait. Alors, évidemment, quand c'est des images superbes, comme on voit celles dans les livres, on les reconnaît assez facilement. Mais beaucoup de ces images sont gravées aussi, vraiment énormément. Par exemple, à Lascaux, il y a plus de gravures que de peintures. Bon. Et ces gravures sont souvent très difficiles à voir, parce que ça dépend de l'éclairage, une gravure. Il faut un éclairage latéral, on peut très vite passer à côté sans rien voir. Et donc, tout ça pour dire qu'en plein d'endroits, on continue de nos jours à découvrir des images dans les grottes, parce que, y compris des grottes très connues, y compris des grottes visitées par des touristes depuis très longtemps, parce que personne n'y avait prêté attention, en fait. Et donc, voilà, le corpus grossit.
Christophe.
Alors moi j'ai un peu deux questions en une, mais je te fais confiance pour avoir mon compte de réponse. Mais est-ce que finalement cet art, comment dire, il a une unité qui fait qu'on peut parler de l'art paléolithique sans diviser à la fois entre, c'est là où il y a deux questions en une, entre régions et ou entre périodes. C'est-à-dire est-ce que l'art européen, qui est celui qui vient le premier en tête, il a une originalité plus ou moins radicale par rapport aux arts arts qu'on trouve ailleurs. Et est-ce qu'au sein de l'art européen ou des autres arts, il y a des périodes très marquées qui feraient que, je sais pas moi, l'art de l'époque de Chauvet ne serait pas du tout celui de l'époque de Lascaux, ou significativement pas le même, enfin bon, voilà.
Alors, c'est une question qu'on peut poser pour plein de phénomènes culturels, ça, en réalité. C'est une question qui est récurrente en anthropologie. C'est-à-dire, si on focalise son attention sur les différences, on voit des choses qui ne sont pas les mêmes que si on focalise l'attention sur les ressemblances entre cultures, entre zones, entre périodes, etc. Et donc, pour ce qui est de l'art, effectivement, il y a beaucoup de préhistoriens qui focalisent leur attention sur les différences, et c'est tout à fait légitime, et ça se comprend très bien, parce qu'ils cherchent justement à établir des chronologies, des relations entre zones différentes, et ça fonctionne très bien. Ensuite, si on fait un zoom arrière, alors là, ce qu'ils font, c'est une attention précise, on va étudier telle grotte, on va regarder, peut-être il y a des images qui sont assez caractéristiques qu'on va retrouver dans une autre grotte dans notre région, est-ce que ça témoigne d'une relation culturelle ou pas ? Voilà, ce type de question est parfaitement légitime, mais si on fait un grand zoom arrière et qu'on regarde les arts rupestre. Par exemple, si on imaginons que on ait un énorme tas de photographies. Comme l'exposition du Musée de l'Homme en ce moment, hein, il y a des photos d'art rupestre qui proviennent du monde entier. Hein. Donc vous avez un énorme tas de photographies avec des photos qui viennent de partout. Bon. Vous demandez à quelqu'un qui n'y connaît rien de dire tu pourrais pas me classer un peu les photos là parce que j'arrive pas à m'y retrouver. Essaye de faire des tas avec celles qui se ressemblent. Plus ou moins, bah, grosso modo, toutes les photos qui vont être prises dans des grottes vont se terminer dans le même tas. Et si j'ai un tas de photos prises dans les grottes ornées, disons, franco-cotabriques, d'Europe occidentale, et que dedans, je mets une photo prise en Australie d'art aborigène, et que je dis à quelqu'un qui ne connaît rien, chercher l'intrus, je suis à peu près persuadé qu'il va trouver l'intrus. Oui. Ce qui veut dire que, quand on fait un zoom arrière, effectivement, il y a des différences, mais comme dans toutes les traditions, on peut évidemment toujours raffiner et chercher les spécificités locales, bon, mais en faisant un zoom arrière, on s'aperçoit que, massivement, l'art des grottes, il se distingue de tous les autres arts rupestres du monde. Il y a quand même, pour moi, une unité flagrante.
Oui, alors, pour éclairer un petit peu le débat, enfin la discussion auprès de nos auditeurs, on distingue l'art pariétal et l'art rupestre.
Oui. Alors, oui. Alors, évidemment, ça, c'est du jargon. Oui. L'art rupestre, c'est un mot latin, ça vient du latin, qui veut dire rocher, caillou. Hein. Et donc, c'est toutes les images, tous les graphismes, en fait, qui ont été réalisés et inscriptions, ça peut être des inscriptions aussi, alphabétiques ou non, qui ont été réalisées sur des rochers. Et ça, il y en a, grosso modo, partout où il y a eu des rochers et des humains, c'est bien rare s'il n'y en a pas. Hein. Dans le monde entier, on en trouve. Et dans les grottes, on a l'habitude de parler d'art pariétal. Pariétal, c'est paroi, hein, et donc pour distinguer une spécificité de l'art des grottes. Bon. Voilà, c'est un point de vocabulaire.
Et alors, tu nous as dit, là, que l'art rupestre, on en trouve absolument partout. C'est très abondant, et ça s'étale sur des périodes bien plus longues, finalement, que l'art pariétal. Et dans le livre, tu cites un chiffre du nombre de grottes ornées, connues, aujourd'hui.
Oui, alors, c'est un chiffre qui est un peu plus de 400, voilà. Disons. Voilà, un peu plus de 400. C'est difficile d'avoir un chiffre précis, parce que où finissent les abris sous roche et où commencent les grottes. Bon, il y a une petite ambiguïté. On appelle grotte par convention, toutes les cavités dans lesquelles on peut pénétrer jusqu'à se trouver dans l'obscurité. Voilà. Sinon, on appelle ça des abris sous roche. Voilà. Mais il y a quand même évidemment, il y a une zone un peu entre les deux qui est un peu floue.
Hein. Crépusculaire.
Crépusculaire, voilà. Une zone grise.
Là. Je cite là, tu le mets in extenso dans ton livre, un certain Élie Masséra qui en 1902 posait la question à laquelle on va essayer de répondre, ou peut-être pas. Pourquoi ces grands artistes, il parle donc des artistes paléolithiques, hein, pourquoi ces grands artistes ont-ils choisi des grottes peu accessibles, des boyaux étroits? Pourquoi se sont-ils enfoncés dans l'ombre à plus de 200 mètres de l'orifice pour cacher leurs œuvres si variées? J'avais pas conscience de ça, moi, quand je me représentais, comme beaucoup d'entre nous, quand on se représente les images des grottes ornées, c'est Lascaux, par exemple, bah, c'est facile, là, bon, c'est une grande salle. Moi, j'ai visité des grottes, et là, c'est pas les grottes ornées, parce qu'on n'a plus accès, sauf aux répliques, mais on nous amène dans des cathédrales souterraines. Je crois que c'est le gouffre de la Veine Armand qu'on visite du côté du Larzac, par là, et on est dans une salle gigantesque qui peut contenir Notre-Dame, etc. Enfin, plein d'images comme ça. Mais en fait, tu l'expliques, c'est qu'une grande partie de ces œuvres, enfin, on va revenir après sur les mots, mais peu importe, sont dans des endroits quasi inaccessibles.
Oui, ou très difficile d'accès. Ouais. Avec des boyaux, vraiment, il faut ramper, on se cogne la tête, et si on se remet à la période du paléolithique final, avec un éclairage des lumignons, quoi, vraiment des lampes à graisse qui éclairent vraiment pas très loin, ou des torches, et il faut imaginer les gens là, en train de ramper, de risquer de tomber dans un gouffre, c'est glissant, on se cogne la tête, il y a des endroits où ils ont réalisé des œuvres dans des endroits où on peut se tenir qu'à une seule personne, et une seule personne à ils ont fait ça au plafond et eux-mêmes n'ont pas pu voir en entier ce qu'ils ont dessiné. C'est vraiment très intriguant. Alors effectivement, il y a des endroits, des salles somptueuses, on pense évidemment à la rotonde de Lascaux, mais à Lascaux aussi, il y a des endroits, des petits raccoins qui ont été décorés et on se dit, mais pourquoi le faire ici alors qu'il y avait tellement de place ailleurs. Bon. Mais la question qui se pose plus largement, c'est pourquoi aller s'embêter en fait à faire ça dans l'obscurité, dans des endroits dangereux. En plus, il y avait aussi des animaux qui pouvaient être là, des animaux potentiellement dangereux, dans le noir, en risquant de tomber, en risquant de se faire mal. C'est vraiment, quand même, a priori, une très drôle d'idée d'aller faire des œuvres là-dedans, alors qu'à l'extérieur, c'est si facile, quoi.
Oui, alors d'ailleurs, enfin, pour compliquer la question, tu en parles aussi d'ailleurs, mais il ne faisait pas que ça, et il faisait aussi des choses à l'extérieur. Alors le problème étant qu'évidemment, ça s'est beaucoup moins bien conservé que ce qu'on a à l'intérieur, mais de source sûre, disons, on sait qu'il faisait des choses, et non seulement il faisait des choses en extérieur, mais y compris des trucs justement un peu tape à l'œil, avec des grandes frises colorées en surplomb qui se voyaient à des kilomètres. Donc c'est des gens qui faisaient les deux, et c'est pas forcément évident, du coup, ils nous ont peut-être joué un petit tour, mais en tous les cas, ils nous ont pas facilité l'interprétation.
Oui, et d'ailleurs, il y a des préhistoriens qui disent, faut peut-être pas trop s'exciter sur l'art des grottes, parce que c'est peut-être juste une exception. Peut-être qu'en réalité, la majorité des images, c'était à l'extérieur, sauf qu'avec nos climats, elles ont disparu. Alors, on a quelques endroits où notamment des gravures ont survécu, mais ça suffit pour nous prouver que à l'extérieur, ils ont fait des images comparables à certaines, en tout cas, de celles qu'on trouve dans les grottes. Mais ça pose d'autant plus la question. C'est bien ça, la question. C'est-à-dire, d'accord, ils ont fait des images à l'extérieur. Mais très bien, c'est assez c'est logique, mais c'est dans le monde entier, comme ça. Partout où il y a des belles parois, des rochers lisses, des falaises verticales qui sont là comme des tableaux qui attendent qu'on dessine dessus, il y a des gens qui sont venus à une époque à une autre et qui ont réalisé des images. Bon. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement commun dans le monde. Et effectivement, il y a une espèce d'exception très bizarre qui est d'aller faire ça dans une grotte. Voilà, donc multiplier les difficultés. C'est-à-dire, il y a l'obscurité, il y a le côté dangereux, il y a la progression qui peut être très difficile, et puis il y a aussi le fait, quand il s'agit de peinture, qu'il faut d'abord préparer, il faut prévoir son coût. C'est-à-dire, il faut le matériel de peinture, on ne le trouve pas dans la grotte. Les pigments, il faut les préparer à l'avance, etc. Il y a tout un boulot. Il faut prévoir son coût. Donc c'est pas quelqu'un, on ne peut pas imaginer des gens qui vont dans une grotte, puis qui se disent, ah tiens, c'est sympa, ici, je ferais bien une petite peinture. Non, il faut vraiment prévoir son coût à l'avance. Et donc, c'est quelque chose de prémédité.
Alors, on reviendra après sur tous ces éléments et on va les approfondir au fur et à mesure de notre discussion. Mais avant de revenir au pourquoi, c'est le comment, justement, qui est important. C'est, moi, j'avais une représentation assez béotienne, je veux dire un peu bête. Hein. Le gars, il venait avec son bout de charbon de bois, hop, il traçait une ligne, et puis après, il collait ce qu'il pouvait, un peu de terre, machin, et puis ça accrochait, etc. Mais non, ça a l'air bien plus complexe que ça, et ça prouve une certaine manière quand même l'ingéniosité de ces paléolithiques, parce que tu cites dans ton livre les pigments qu'ils utilisent, qui demandent des préparations, enfin c'est vraiment une technique. Et puis, il y a des peintures qui sont à plusieurs mètres de hauteur dans ces grandes salles dont tu parlais, c'est un peu la Sixtine, quoi. C'est Michel-Ange au plafond.
Oui, avec les échafaudages, tout ça. Et, oui, alors, effectivement, c'est possible, hein, le dessin opportuniste, de dire, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui a fait du feu, il reste des charbons, je prends un charbon, je dessine. Bon, c'est tout à fait possible, et ça a certainement eu lieu. Hein. Mais là où la question se pose vraiment, c'est dans le cas des peintures, puisque pour faire une peinture, il faut avoir de la peinture. Ça paraît quand même assez évident, mais la peinture, on ne la trouve pas dans les grottes. Contrairement à un bout de charbon, ou si je veux faire une gravure, je peux prendre un bout de stalagmite, et puis me mettre à percuter les parois, et faire un dessin comme ça. Ça, c'est possible. Donc, une espèce d'expression opportuniste, comme ça. Bon, c'est possible.
Avec les doigts directement aussi.
Ou avec les doigts, dans l'argile, par exemple, ce qu'on appelle le monde milk. Hein, c'est certaines parois sont très, très. Comme un peu comme de la boue, on peut dessiner aux doigts. Bon. Ou sur le sol aussi, on peut dessiner aux doigts. Il y a des témoignages de ça. Bon, d'accord. Mais il y a quand même une énorme quantité d'images qui sont vraiment de la peinture, avec de l'estompe même. Hein. Et donc pour ça, ça suppose d'avoir de la peinture. Il faut la préparer avant, et c'est ça peut être un peu plus compliqué quand même que simplement de broyer un pigment, rajouter de l'eau, puis ça y est, on a de la peinture. Souvent, on a fait des analyses hein, de certaines de ces, ce qu'on appelle le pot de peinture, c'est-à-dire la recette qui a été utilisée pour préparer la peinture elle-même. Et donc, il rajoutait une charge pour que la peinture soit un peu plus onctueuse, pour pas que ça dégouline sur les parois, par exemple, quand on va peindre. Et il rajoutait un liant. C'est une recette elle-même déjà compliqué, qui prend du temps et qui nécessite un savoir-faire et donc, là c'est important, un apprentissage, une tradition picturale avec peut-être des écoles. Bon. Et puis il faut alors on peut dessiner au doigt, mais il y a quand même beaucoup de peintures qui sont dessinées avec des pinceaux, en tamponnant, en faisant de l'estompe, et donc tout ça, ça se prépare. Hein. Il faut arriver avec tous ces outils.
Oui, d'autant plus que tu t'y connais beaucoup mieux que moi, mais il me semble avoir lu à plusieurs endroits que non seulement là, il y a une forte technicité, disons, matérielle, mais il y a aussi une forte technicité d'exécution, et que n'importe qui, même qui aujourd'hui tente de reproduire, même d'un peu loin, un certain nombre de ses œuvres, s'aperçoit assez vite que ce n'était pas n'importe qui faisait ça. Quoi.
Oui, il y a le savoir-faire technique, qui déjà nous permet de comprendre qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une tradition, d'un apprentissage technique, tout simplement. Hein. Donc il y a ça, mais on peut avoir la peinture, le pinceau, les tampons, tout ça. Dessiner les lions de la grotte Chauvet, c'est pas gagné. Et beaucoup, les images de Lascaux qu'on a à peu près tous en tête, hein, c'est pas évident. Si je prends quelqu'un au hasard dans la rue aujourd'hui et que je lui donne tout le matériel, je dis vas-y, peins-moi une vache, c'est pas le résultat, il va être plus que variable. Hein. Donc là, on a des images qui sont d'un savoir-faire artistique, disons, on est obligé d'employer ce terme, qui témoigne manifestement de gens doués, d'accord, mais surtout d'un apprentissage.
Yeah.
vient d'écouter un chant de femme pygmée. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix sans limite de la Fédération anarchiste, la société dans tous ses états. Aujourd'hui, avec Christophe Darmangeat, nous accueillons Jean-Loïc Lequellec pour son livre La caverne originale, Art, mythes et premières humanités, un livre qui est publié aux éditions La Découverte dans la collection Sciences sociales du vivant. Dans une première partie, on s'est un petit peu intéressé au pourquoi. Et là, on va au comment. Comment ces humains du paléolithique ont fait leurs œuvres qui ne sont parvenues jusqu'à maintenant. Et là, on va essayer de comprendre un petit peu mieux cet art paléolithique. Alors, déjà, une question à laquelle tu consacres un gros chapitre dans ton livre, c'est qu'est-ce qu'on voit dans ces grottes ? Qu'est-ce qu'on voit réellement ? Parce qu'il y a ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont peint, gravé, et puis il y a ce que le regard que nous on porte aujourd'hui. Et ça a l'air de poser quand même quelques discussions assez compliquées, à la fois aux béotiens que je suis, mais aussi aux spécialistes dont tu es.
Qu'est-ce qu'on voit ? Alors, on voit beaucoup d'animaux. Et ce qui peut-être la question encore plus intéressante que ce qu'on voit, c'est qu'est-ce qu'on voit pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui manque. Et effectivement, il y a des animaux, il y a des humains. Bon, après, on peut discuter sur quels animaux, quel type d'humains, etc. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? En fait, il y a rien d'autre. Et ça, c'est quand même très curieux. On peut se dire, mais comment se fait-il ? Il y a pas de ligne. Les animaux, ils flottent en l'air, par exemple. Ils sont pas représentés sur une ligne de terre. Et puis, il n'y a pas de plantes, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien qui ressemble à ce qu'on pourrait reconnaître, nous, comme un paysage ou l'évocation d'un paysage. Il n'y a pas de scène. Bon, on peut chipoter, discuter pour, disons, 4 ou 5 ensemble où on peut reconnaître certains reconnaissent une scène, d'autres disent je suis pas sûr. Bon, mais grosso modo, il n'y a pas de scène. Souvent, on a cette idée, par exemple, de dire il y a des scènes de chasse. Mais pas du tout, il y a zéro scène de chasse. Et si on n'avait que ces images pour qualifier les gens qui les ont faites, jamais on pourrait penser que c'est une société de chasseurs. Bon, il n'y a rien qui évoque la chasse. Donc, les absences dans cet ensemble sont assez parlantes, en fait. Ça nous dit déjà que si on recherche un peu le but de l'opération, pourquoi faire des images dans les grottes, et ben c'est manifestement pas pour représenter l'environnement.
Tu disais il n'y a pas de scène, et en particulier pas de scène de chasse. Il y a cette scène dite du puits à Lascaux, sur laquelle il y a vraiment beaucoup de discussions et d'interprétations. Parce que là encore, c'est notre regard qui va interpréter. Est-ce qu'on peut donner quelques aperçus ?
Je me demande s'il n'y a pas un livre à ce sujet, d'ailleurs.
Ou même plusieurs.
J'ai fait un petit livre là-dessus pour recenser toutes les interprétations en fait, de cette scène-là. Un petit livre qui s'appelle L'homme de Lascaux et l'énigme du puits. Oui. Parce que cette scène, entre guillemets, a fait couler beaucoup d'encre. La plupart des observateurs y ont reconnu une scène. Mmh. Alors, en gros, pour les gens qui ne connaissent pas, il y a un bison qui est un petit peu bizarre. Il a la tête qui se retourne sur le flanc. Et puis, dans la partie arrière, sous le ventre, il y a une espèce de grosse masse qui a l'air de sortir. Bon, on ne sait pas trop. Il est traversé par un trait. En face de lui, il y a un bonhomme qui est dessiné de manière très rectiligne, disons, contrairement au bison lui-même. Et puis à gauche, il y a un rhinocéros qui a l'air de s'éloigner de la scène.
Bon. Et il y a un petit oiseau en bas.
Et puis, en bas, il y a une espèce de bâton planté dans le sol sur lequel a l'air d'être posé un oiseau. Bon. Et le bonhomme lui-même a une tête qui ressemble furieusement à la tête de l'oiseau posé sur le bâton.
Bon. Et le bonhomme, il tombe comme si...
Alors le bonhomme, il est incliné. Ça dépend des photographie, ça dépend comment on le regarde. Il y a des gens qui l'ont vu complètement mort, allongé sur le sol, mais sauf qu'il a un sexe en érection. Donc, ça paraît un petit peu contradictoire. D'autres l'ont vu simplement incliné, alors peut-être en train de tomber. D'autres l'ont vu en transe. Enfin bon, en gros, il y a une 60aine d'interprétations différentes, rien que pour cette scène. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit une scène. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de pot de peinture, de la salle du pot de peinture, il se trouve que là, c'est un des endroits où on a pu analyser les pigments. Et on s'est aperçu, alors nous quand on regarde l'ensemble, on a un panneau sur lequel on voit tous ces éléments, et dans notre esprit ils forment une scène, on n'y réfléchit pas, c'est comme ça, notre esprit fait de telle manière qu'on regarde ça comme une scène, et on le sait, on essaye évidemment, nous après on pédale pour essayer de l'interpréter. Mais quand on fait une analyse des pigments, on s'aperçoit que le bonhomme et le bison ont été réalisés avec un pot de peinture, et le rhinocéros a été fait avec une recette de peinture complètement différente, mais vraiment complètement différente. Et du coup, ça jette un gros doute sur le fait que ce soit une scène. D'autant plus que si on tourne le dos à la prétendue scène et qu'on regarde en face de l'autre côté, sur la paroi qu'on a dans le dos quand on regarde le bison, le bonhomme et le rhinocéros, là il y a un cheval et lui, il est dessiné avec le même pigment que le bison. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a une scène, à ce moment-là, elle comporte des éléments qui se trouvent devant nous et derrière nous. Mmh. Et en fait, il y a finalement, au bout du compte, il y a un très gros doute sur le fait qu'il s'agisse bien d'une scène. Alors ceci dit, après, elle a fait l'objet de mille et une interprétations.
Alors, j'en profite, mais ça, c'est d'ailleurs une des caractéristiques aussi très, très intrigantes de cet art et qui pose un gros problème pour le comprendre rétrospectivement, c'est qu'il y a des choses qui se mélangent avec des figures qui sont les unes par-dessus les autres, les unes dans les autres, des trucs qui ont été réutilisés pour faire d'autres morceaux, etc., etc., et qu'avec toutes les limites qu'on a sur les datations, on n'a pas moyen de savoir si les gens ont fait ça d'un seul coup, intentionnellement, ou si quelqu'un est passé 2000 ans plus tard, ou 5000 ans plus tard pour reprendre, et que ça aussi, ça contribue à obscurcir la lecture qu'on peut en faire.
Oui, on a des difficultés avec la chronologie, manifestement. À la fois la chronologie générale, on a grosso modo une idée, d'accord, paléolithique, quoi. Mais en fait, très peu de grottes sont réellement datées, et très peu d'images sont réellement datées. Alors ça se comprend, il faut faire des prélèvements, les prélèvements c'est destructeur, il faut qu'il y ait du carbone, sinon on n'a aucun moyen technique de les dater, donc ça restreint les possibilités énormément. Et finalement, on a les datations, c'est par comparaison stylistique. Ah, celle-là, cette image-là a été à peu près datée. Bon, et je rentre pas dans le détail, mais disons, admettons que les images soient datées par un prélèvement. En fait, je pense qu'il en faudrait quand même une petite série. Et bon, admettons. Et du coup, on en retrouve une autre dans une autre grotte plus loin qui ressemble. Alors, on se dit, ah, c'est le même style. Et donc, ça doit être la même période. Et de proche en proche, comme ça, on arrive à faire des estimations qui sont, à mes yeux, extrêmement fragile. Et après, quand il s'agit par exemple des superpositions, on peut faire une chronologie relative. On voit bien que telle image a été faite après telle autre, puisqu'elle efface une partie de la précédente, ou elle réutilise une partie de la précédente, par exemple. Mais oui, d'accord, mais combien de temps après ? C'est l'après-midi, il y en a un qui a fait ça le matin, et puis il y a quelqu'un d'autre qui est venu l'après-midi pour faire son truc, ou c'est 1000 ans après, un siècle après, 10 000 ans après, on n'en sait strictement rien, généralement. Donc on réfléchit, c'est vrai que c'est un sujet passionnant, que ça appelle l'interprétation, que ça nous titille, mais on est vraiment très démunis parce qu'on manque beaucoup d'informations.
Dont tu as fait aussi un relevé de ce qui est représenté. Alors il y a des animaux, il y a beaucoup d'animaux, il y a des humains, mais alors il y en a beaucoup moins. Et donc il y a... Alors, on va parler des animaux. C'est quoi ? C'est des sauterelles, des baleines.
Une sauterelle connue. Sur de l'art mobilier. Voilà. Mais c'est vrai, il y a une sauterelle qui est super bien dessinée d'ailleurs. Disons, alors essentiellement, c'est des animaux, ce qui fait qu'on a coutume de dire c'est un art animalier. C'est pas faux, hein, parce qu'il y a beaucoup d'animaux, effectivement. Et on continue généralement en disant ben, les humains, on les cherche un peu. Il y en a vraiment très, très, très peu. Mais c'est vrai que si on met tous les animaux d'un côté et puis les humains de l'autre, on compare quelque chose qui n'est pas forcément comparable, parce qu'on compare plein d'espèces différentes avec une autre espèce. Bon, si on compare espèce par espèce, c'est déjà un petit peu différent. Alors, ce qui est le plus fréquent, ce sont les chevaux, et les bisons et bovidés en général. Hein. Et donc là, c'est massif, disons que c'est quelque chose comme 25% hein, de chevaux. Et puis, dans la littérature, quand on regarde ce qui est écrit, on vous dit généralement bah, les humains, c'est en forçant un peu, hein, c'est 7% grand maximum. Quoi, hein, bon. Alors, il y en a qui sont douteux, mais disons au plus large, c'est 7%, donc vraiment pas grand-chose. Alors moi, je dis, ça dépend un peu comment on compte. D'abord, si on compte uniquement ce qui est reconnaissable, les espèces qu'on peut reconnaître, et pas, parce que 7% c'est 7% de l'ensemble des graphismes. Oui. Si on compte ce qui est reconnaissable, c'est le double. Oui.
Bon. Oui.
C'est même plus que double, c'est en gros 16%. Et 16%, moi là-dedans, je compte les humains partiels. Pourquoi ? Parce que quand les gens vous disent, par exemple, il y a grosso modo, je crois qu'il y a 17% de cervidés. Bon, mais on compte là-dedans les cervidés parfaitement bien dessinés, avec tous les détails, mais aussi simplement les têtes. Ou on va, pour les mammouths, on va vous compter des images où on reconnaît que la ligne de dos. Donc des images partielles, mais qu'on reconnaît quand même comme mammouth, une espèce d'ébauche, si vous voulez. Bon. Donc voilà, mais à ce moment-là, il faut faire pareil pour les humains aussi. Si on compte un à chaque fois qu'on voit, mettons, je compte les bisons, bon, et je compte, ou les chevaux, bon, je compte un à chaque fois que je vois un bison, un cheval entier, bon, mais s'il n'y a que la tête, je compte un aussi. S'il n'y a que l'arrière, mais je vois bien quand même que c'est un cheval, si je compare avec tous les autres, je compte un aussi. Bon, ben d'accord, j'arrive à un total, et donc à un pourcentage. Et si je fais comme ça, je dois faire exactement la même chose pour les humains. Il n'y a aucune raison que je me limite à compter les humains entiers, puis que je compare ça ensuite avec le tas des images qui comportent des animaux entiers et des morceaux d'animaux. Si je prends les humains partiels, c'est-à-dire les têtes, il n'y a que la tête, ou il n'y a que le sexe, ou il n'y a que les mains, ou il y a des morceaux d'humains, eh bien j'arrive à 16%. Et 16%, c'est plus que les cervidés. C'est beaucoup plus que les mammouths. Les rhinocéros, par exemple, c'est 1,5%, quelque chose comme ça. C'est rien du tout. Il y a beaucoup plus d'humains. Et donc, moi, je veux bien qu'on dise que ce soit un art animalier, mais c'est extrêmement discutable. Et je pense qu'on a une vision de cet art qui est, fortement influencée par la médiatisation qui en est faite. C'est-à-dire, et on a tous en tête un super beau mammouth qu'on a vu dans un livre, un rhinocéros, les lions de Chauvet, maintenant, qui ont été super médiatisés. Mais les lions, c'est peanuts dans l'art paléolithique. Il y a beaucoup plus d'humains que de lions. Donc, si on fait le décompte des espèces en mettant l'homme parmi toutes les espèces, eh bien, il arrive en troisième position.
D'accord. Donc là, on rétablit, enfin, tu rétablis quand même une vérité, je ne sais pas, mais en tout cas, quelque chose qui est loin d'être communément admis jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Oui, en tous les cas, par exemple, Testard, lui, insistait beaucoup pour dire il y a quasiment pas d'humains. Pour en revenir sur les animaux, quelque chose que les connaisseurs savent, mais qu'il est peut-être bon de rappeler, c'est que la proportion des espèces représentées est pas du tout représentative de la proportion des espèces qui côtoyaient et que en particulier, si je dis une bêtise, tu me corrigeras, mais le renne qui était l'animal par excellence qui servait à la subsistance, on le trouve quasiment pas ou peut-être même pas du tout représenté.
Oui, alors ça c'est l'argument massu, je dirais, pour dire le but de cet art, quel qu'il soit, de toute façon, c'est pas de représenter l'environnement, et c'est pour ça qu'on parle d'un bestiaire. Il y a la faune, alors la faune c'est l'ensemble des animaux dans un environnement donné, l'ensemble des espèces animales dans un environnement donné. Et le bestiaire, c'est ce qu'une culture va sélectionner dans cet ensemble-là, qui est gigantesque en fait. Hein. En France, il y a 100 000 espèces animales quand même. Hein. Bon. Donc là, qui en connaît 100 000 personnes et on connaît tous quelques espèces. Pourquoi ? Parce que dans notre culture, on a, comme dans toutes les cultures, on sélectionne quelques espèces qui deviennent emblématiques et on les valorise positivement, négativement, du genre le loup est en gros, pour faire schématiquement, mais un exemple que tout le monde connaît, le loup est méchant et l'agneau est gentil. Hein. Voilà, donc on, dans notre culture, on a plein d'éléments qui confortent ça et plein d'espèces sont complètement ignorées, absolument, dans les contes, dans la vie quotidienne, on les ignore absolument. C'était pareil pendant la préhistoire, évidemment. C'est comme ça dans toutes les cultures, parce qu'on ne peut pas tenir compte de l'ensemble de l'environnement. Et eux, de la même façon, dans tout l'ensemble de leur environnement, dans leur art, en tout cas dans l'art des cavernes, ils ont ignoré absolument tout ce qui est végétal. Et dans ce qui est le monde animal, ils ont sélectionné une poignée d'espèces seulement. Alors la question, évidemment, pourquoi ? Ça, c'est une question très compliquée. Mais de fait, c'est le cas. Et c'est un argument qui est très souvent utilisé pour contrer une des explications de cet art, qui est de dire, c'est des chasseurs, donc c'est super important pour les chasseurs de parvenir à bredouille, donc ils pratiquent une magie de la chasse, et donc une des magies de la chasse bien attestée en ethnologie, c'est je dessine l'image de la bestiole que je veux tuer le lendemain, et puis la veille, je la larde de coups de saguet, je lui lance des flèches, je lui tape dessus tout ce que je peux, et comme ça, ça propicie ma chasse chasse du lendemain, je la tue magiquement à l'avance, comme ça je suis sûr que le lendemain je ne reviendrai pas bredouille. Donc ça a été donné comme explication, ça, pour l'art des cavernes, en disant, ben, ils allaient dans les cavernes, ils avaient des rituels secrets, et puis ils dessinaient le bison qui voulait tuer le lendemain, et Hardy Petit, il balançait des pierres et des sagas dessus pour le tuer à l'avance. Bon. Sauf que, ben, par exemple, à Lascaux, on sait très bien depuis qu'on a des fouilles que le renne était essentiel dans leur mode de vie et dans leur alimentation notamment, et qu'en fait, ben, il n'y en a pas de représenté, quasiment pas, ou douteux, enfin bon, pas très évident. Et donc cette explication-là, disons, par la chasse, la magie de la chasse alimentaire, elle ne tient pas. Et c'est très important, du coup, de distinguer entre la faune et le bestiaire.
Alors après, il y a des formes qui sont un petit peu ambivalentes, ambiguës, entre l'homme et l'animal. Il y a cet homme-cerf de la grotte des Trois Frères, et puis cet homme-bison, enfin on ne sait pas très bien s'il porte un masque, est-ce qu'il joue de la flûte, est-ce qu'il tire un arc. Est-ce qu'on peut s'arrêter un petit peu sur ces exemples qui, là aussi, alimentent beaucoup de littérature, et pour lesquels on a encore beaucoup, beaucoup de doutes, de questions, et des interprétations qui sont parfois un peu, qui sont tirées vers l'ésotérisme, la sorcellerie, enfin tu développes un peu tout ça dans ton livre, et c'est proprement passionnant.
Alors effectivement, les figurations, alors autant les figurations animales sont, disons, véristes, on peut dire naturalistes, enfin j'emploie ce terme avec précaution parce que je ne sous-entends pas du tout qu'ils avaient envie de représenter la nature, hein. Mais en fait nous on reconnaît facilement le bison, quand on voit les très belles images de la grotte Chauvet par exemple, on reconnaît, on dit ah, c'est super bien représenté. Bon. Mais quand on regarde les figurations humaines, on se dit ah, c'est quand même un peu bizarre parce que elles sont pratiquement toutes, disent les préhistoriens, animalisées, c'est-à-dire que elles sont tirées du côté animal. Alors on voit quelque chose qui ressemble à un bonhomme, bon, et ou une bonne femme. Quand on voit des seins, par exemple, et on se dit c'est quand même bizarre parce que en même temps il y a des cornes ou il y a une queue ou les jambes sont pliées de manière qui n'a pas l'air humaine, les pieds sont pas humains, ou il y a plein de détails comme ça qui font que on semble voir des hybrides humains-animaux. René Hégo, il dit des humains-animaux. Des êtres qui sont, grosso modo, on voit que c'est une forme anthropomorphe, mais en fait, c'est pas vraiment un portrait d'un être humain, comme on peut penser que certaines images sont pratiquement des portraits d'un lion, on le reconnaît très bien, c'est très fidèle, disons, selon nos critères. Là, pour les humains, c'est souvent très différent. Alors du coup, ça pose beaucoup de questions. Comment se fait-il que les humains soient systématiquement animalisés ?
Ah, est-ce qu'on... Peut-être qu'on reviendra plus loin sur... On va laisser un peu le suspense là-dessus. Tu parles aussi dans cette partie de ton ouvrage, d'une certaine manière, d'une faculté qu'a le cerveau humain, et depuis très longtemps, à reconnaître des formes, la pareidolie, et puis après l'apophénie. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ces... Pour vraiment essayer de comprendre, pour peut-être, en tout cas, une des motivations, ou ce qui a poussé ces lointains ancêtres à représenter comme ça sur les parois.
Oui, alors la pareidolie, bon, c'est un mot savant pour désigner un phénomène que tout le monde connaît, c'est le fait, par exemple, de reconnaître des dragons dans les nuages, ou des moutons, ou ce qu'on veut, hein, voilà, ou un vieux mur couvert de mousse, ou de lichen, et si on regarde un petit moment, bah, on peut voir, on imagine des choses, on reconnaît des personnages. Léonard de Vinci, dans son traité de peinture, disait ça, il suffit de regarder un vieux mur suffisamment longtemps, on va voir des scènes de combat avec des chevaux, etc. Bon. C'est le fait que notre esprit est simplement constitué de telle manière qu'on rassemble des éléments qui en réalité ne représentent rien et on les voit représenter quelque chose. Si on cherche pareidolie sur Internet, par exemple, il y a plein d'exemples très rigolos qui vont de la prise électrique, par exemple, avec les deux trous et la petite barre en dessous, et prise dans un cercle, et ça fait pratiquement un emoji, et on reconnaît un visage. Mais il n'y a pas de visage du tout, bien entendu. Et donc ça, c'est cette particularité de notre esprit qui fait qu'on rapporte, notamment à des visages, des détails de la nature qui, en fait, n'ont pas pour but de représenter un visage du tout. C'est humain. On est tous doués de cette capacité, disons. Et donc les humains préhistoriques aussi. Et quand on va dans une grotte, il y a tellement de configurations des roches, en plus quand on a un éclairage un peu vacillant et que tout ça bouge un petit peu, et qu'on se déplace et que donc les ombres sont mouvantes, et bien très facilement on va reconnaître des tas de trucs comme ça. Et d'ailleurs maintenant quand les guides qui font visiter des grottes touristiques, disons, vous disent, ah là, voilà, le stalactite, on vous met l'éclairage pour que ça aille bien, puis on vous dit, ah voilà, Sainte Vierge et son enfant. Alors c'est une stalactite qui est éclairée de telle manière que, ah ben oui, une fois qu'on vous l'a dit, vous reconnaissez la Sainte Vierge et son enfant. Bon, voilà.
Ou la Tour Eiffel.
Ou la Tour Eiffel, ou n'importe quoi. Bon, voilà. Et donc on reconnaît des choses qu'on interprète comme étant figuratives, alors qu'en fait elles ne le sont absolument pas. Mais ce phénomène est tellement répandu, tellement commun, qu'on peut penser que les humains préhistoriques aussi, en pénétrant dans les grottes, ont pensé reconnaître des animaux, notamment. Et on en a même la preuve, puisque très généralement, mais vraiment c'est extrêmement répandu dans les grottes, on a des formes de la paroi, des formes absolument naturelles, qui évoquent le dos d'un animal, un ventre, un œil. Par exemple, vous avez une cupule ou un petit caillou qui dépasse, ça peut faire penser à un œil. Et il y a des gens qui sont venus et qui ont complété ces particularités de la roche, absolument naturelles, avec quelques traits pour que devienne absolument visible le fait que ça peut évoquer un animal.
Oui, tu cites l'exemple de l'ours de Montespan. Alors c'est un rocher qui affleure dans le sol et qui aurait vaguement la forme d'un ours, hein, c'est ça, non ?
Il y a plein de... Montespan, c'est un petit peu particulier parce que ça a été utilisé pour défendre l'idée d'un culte de l'ours. Ouais. En fait, c'est un modelage en argile, en réalité. Mais il y a plein d'endroits où, par exemple, une série de stalactites ou mythes verticales ont été interprétées comme des pattes. Vous avez 3-4 comme ça qui se succèdent. On peut y voir des pattes. Et à ce moment-là, et puis au-dessus, il y a une espèce de protubérance un peu bombée. Et on peut, c'est marrant, ça ressemble un peu à une bestiole, une bestiole avec un gros bide. Bon. Et il suffit de rajouter quelques traits pour que ça devienne évident. Et ça a été fait plein de fois dans les grottes. Vraiment très, 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 très souvent.
Alors, tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait une concentration de ces grottes ornées, en particulier dans une région, la franco-cantabrique, donc c'est le sud-ouest de la France et puis la chaîne des Pyrénées au nord de l'Espagne. Alors, est-ce que c'est une unité culturelle aussi ? Est-ce qu'on peut retrouver des analogies, des formes à peu près identiques ou qui se recoupent dans l'ensemble ou dans une grande partie de ces grottes ? Est-ce qu'on peut imaginer que c'est des personnes ou des bonhommes ou des tribus ou des groupes humains qui se déplaceraient comme ça d'un endroit à l'autre ? Ou est-ce que c'est complètement, on va dire, une convergence plutôt qu'une diffusion ? Comment on peut expliquer, comment on peut situer ça ?
On peut raisonnablement dire que c'est une unité culturelle. Il y a quelque chose de commun. Ça n'empêche pas qu'il y a des spécificités.
Oui.
Comme on disait au début, ça dépend du regard qu'on porte sur les choses. Si on veut valoriser les particularismes, on peut le faire. Et il y a des préhistoriens qui ont fait ça et qui même pensent que chaque grotte est une espèce d'individu, que c'est même risqué de les comparer entre elles à l'extrême limite. Quoi. Voilà. Mais en fait, si on fait un zoom arrière, on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'ensemble culturel qu'on ne retrouve pas ailleurs et qu'on ne retrouve pas à d'autres époques. Et donc, il y a vraiment quelque chose de commun. Alors après, imaginez par exemple des artistes itinérants. Il y a des gens qui ont imaginé ça, parce qu'il y a certaines images qui, à pas mal de distance, sont quasi superposables. Oui. On se dit, c'est à tel point ressemblant qu'on peut se demander... Alors, il y a plusieurs explications possibles. La même personne qui aurait fait les dessins, mais quand c'est très loin, quand même, on peut avoir un doute. C'est possible, pourquoi pas. Mais on peut penser plutôt à ce moment-là à une école artistique. Vraiment une tradition qui a perduré longtemps et avec des tours de main, des astuces. Quelqu'un qui, Emmanuel Guy par exemple, il y a quelqu'un, un préhistorien qui s'est particulièrement attaché à ça, qui a recherché les façons de dessiner. On disait plutôt tout à l'heure que il y a la technique, mais il y a aussi l'art du dessin. C'est pas si évident de dessiner un bison, comment on fait l'œil, et les sabots, comment on dessine un sabot sans le voir, parce qu'ils n'avaient pas les modèles sous les yeux. Si maintenant moi il fallait que je dessine un sabot de bison là comme ça, ben, je ne sais pas si je réussirais, ce n'est pas évident. Et du coup, il y a des astuces de dessin, il y a des façons de représenter, des tournements, hein, des façons de représenter l'oreille, de représenter l'œil, l'articulation des pattes, etc. Et en analysant ce genre de petits détails, avec un regard, disons, d'artiste, de quelqu'un qui dessine et qui est lui-même dans une tradition de dessin et qui sait reconnaître ce genre de choses, on peut distinguer des traditions artistiques qui recouvrent de très larges horizons géographiques.
Alors, à plusieurs reprises, j'ai utilisé le terme d'humain pour parler de ces artistes, parce que après la lecture de ton livre, je ne sais pas si c'est des hommes, des femmes ou des enfants.
Alors évidemment, pendant longtemps, les premiers préhistoriens étant des hommes, la question s'est pas posée, on a parlé des hommes des cavernes. Bon, alors, il y a toute la discussion habituelle sur est-ce qu'on met un H majuscule à homme, alors du coup c'est homo, et voilà. Mais grosso modo, quand on regarde les illustrations, les reconstitutions, on a souvent quand même les types musculeux en train de dessiner sur la caverne, sous l'œil admiratif des dames qui sont avec les bébés en train de regarder l'artiste dans ses œuvres.
Bon. Il y a une très belle illustration.
Il y a des œuvres comme ça qui sont extraordinaires. Et ça a semblé quand même assez évident pendant longtemps que c'était des hommes, quoi. Voilà, chasseurs. Et puis il y avait aussi avec cette mythologie autour de la chasse et d'un art lié à la chasse, etc. Bon. Et puis, depuis pas mal de temps, c'est pas que maintenant, hein, il y a des gens qui ont dit, oui, ben, en fait, on n'en sait trop rien. Qui a fait ces images, des hommes ou des femmes, on ne sait pas. Il y a eu même des gens qui ont dit, qui ont écrit, que les hommes faisaient les gravures et les femmes faisaient les peintures, hein, avec l'idée c'est délicat, donc voilà, c'est un travail de féminin, puisque la gravure, on tape, on gratte, on frappe, etc., on racle et tout, et ça c'est un travail d'homme. Bon. En réalité, on n'en sait rien. On a pensé pouvoir trouver une solution avec les représentations de mains, les mains négatives ou positives. Et parce que là, du coup, on a une espèce de négatif de la personne elle-même, d'une partie de la personne elle-même. Et il y a un Américain qui a constitué une thèse en disant que si on compare les longueurs des doigts, de certains doigts, des mains des hommes et des femmes, le rapport entre les longueurs de doigts diffère si c'est un homme ou si c'est une femme. On va faire ça sur les peintures, puis on va bien voir si c'est des hommes ou des femmes qui ont fait ça. Et du coup, ça, c'est une théorie qui a eu pas mal de succès, qui a été appliquée aux mains négatives. Il y a eu même un article avec un titre qui a fait pas mal le buzz, parce qu'il était bien trouvé, qui était « Les mains se donnent un genre ». Bon. Et il y a eu un logiciel même qui a été fait pour identifier le caractère féminin ou masculin des mains négatives sur les grottes, où on rentrait une photo dans le truc, et il vous disait « Ah, ça, c'est une main de femme ». Et en fait, au bout du compte, on s'est aperçu que ça ne fonctionne pas, parce que tout ça est statistique. Donc, de fait, statistiquement, il y a une différence dans les rapports entre les longueurs de doigts des hommes et des femmes. Mais si on s'amuse à faire ça à une table le jour du repas de la communion du petit, eh ben, y a toujours quelqu'un qui regarde, tout le monde va regarder ses mains pour dire « Ah oui, c'est vrai, ah bah oui, moi c'est vrai, j'ai le majeur qui est plus long que l'index. Ah bah oui !» Et il y a quelqu'un qui va dire « Ah bah non, moi c'est le contraire, automatiquement. » Parce que c'est statistique. Et donc, pour pouvoir appliquer ça, il faut faire de la statistique, c'est-à-dire pas avoir une main ou deux. Il faut avoir beaucoup de mains et on a une estimation de la proportion d'hommes et de la proportion de femmes. Et le deuxième problème, c'est que c'était construit sur des populations modernes. Il n'y a aucune raison de penser que c'était pareil à la préhistoire. On n'en sait rien et au bout du compte, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes.
D'autant plus pour rajouter une petite couche que si mon souvenir est bon, même parmi les populations modernes, il est admis que cette proportion est variable en fait d'un groupe humain à un autre, comme d'ailleurs le dimorphisme sexuel en général, hein, la différence de taille entre hommes et femmes n'est pas la même aujourd'hui dans les différents groupes humains, et donc l'inférence sur il y a 20 ou 30 000 ans de quel était à cette époque-là l'indice de Manning, on n'en a en réalité pas la moindre idée.
On ne sait pas, alors la question reste pendante, voilà. On ne sait pas, c'est très simple. Pour les enfants, on ne sait même pas d'ailleurs si, parce qu'on a pensé prendre simplement la dimension des mains, la dimension générale, en disant les petites mains, c'est les femmes, les grandes mains, c'est les hommes. Bah oui, mais il y a des grandes femmes et des petits hommes. Bon, c'est pareil, statistiquement, on ne peut pas se passer sur des choses comme ça. Et ça vaut aussi pour les adolescents. Voilà, il y a des adolescents très grands, musculeux, et puis des petits. Bon, donc, en s'appuyant sur ces critères-là, on n'a rien pu dire de décisif sur cette question. Sauf qu'il y a juste un petit détail où on peut identifier, c'est les mains de bébés. Il y a quelques mains de bébés, alors vraiment là très petites, qui ne peuvent pas être des mains d'adultes du tout, et qui sont très intéressantes parce que par exemple, il y a quelques cas où on a des mains de bébés qui sont des mains négatives, hein, donc où on souffle la peinture sur la main appliquée sur la paroi, et la main du bébé a été appliquée dans un cas, je crois que à Gargasse par exemple, je crois me souvenir que c'est à 2,18 m de hauteur.
Un grand bébé.
Voilà, un très grand bébé, ou alors il était porté à bout de bras par quelqu'un.
C'est une musique traditionnelle aborigène d'Australie interprétée au didgeridoo par Lewis Burns. Toujours Radio Libertaire, la société dans tous ses états, aujourd'hui avec Christophe Darmanjat, qui, je le rappelle, est anthropologue social. Nous accueillons Jean-Loïc Le Quellec pour La Caverne originelle, Art, Mythe et Premières Humanités, aux éditions La Découverte. On a parlé du comment, de ce que vous voyez, de ces images, et maintenant... Le cœur de la question, c'est le pourquoi. Pourquoi, aux alentours de 40 000 avant notre ère, des êtres humains se sont aventurés dans des endroits difficiles d'accès, dans le noir, dans des conditions plutôt compliquées, pour peindre sur les parois des représentations alors, du monde tel qu'ils le voyaient, tel qu'ils le sentaient, où ils nous ont laissé un témoignage sur lequel encore aujourd'hui, plusieurs milliers d'années après, on s'interroge. Alors, il y a eu plusieurs interprétations. Alors déjà, dès les débuts des premiers préhistoriens qui se sont intéressés à ces peintures pariétales ont posé des interprétations. On peut en dire quelques mots sur les premières idées qui ont été développées à ce moment-là.
Bah, on a parlé déjà de la magie de la chasse. Oui. Ça, c'était une interprétation qui a été très vite proposée. Une des premières, c'est l'art pour l'art. C'est simplement de dire, avec l'idée que les premiers humains habitaient dans des cavernes, le fameux homme des cavernes, en disant simplement, ils décoraient leur intérieur. Hein, oui. Voilà, comme nous faisons, on met des cadres au mur, des portraits de famille, des trucs qu'on aime bien. Eux, ils faisaient pareil pour que ce soit plus agréable à vivre. Quoi. Bon, oui. Maintenant, on sait que personne n'a jamais vécu dans les cavernes, et que l'homme des cavernes, c'est un mythe récent. Un mythe contemporain. Donc, c'est une explication là qui tombe complètement et que plus personne ne défend. C'est l'idée de l'art pour l'art. Alors, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas sensibles à la beauté des images, à l'esthétique, et il y avait quelque chose quand même de l'ordre d'une création artistique. Bon, c'est un vaste débat. Mais en tout cas, que ce soit la motivation première, non, manifestement pas. Parmi les premières explications possibles, alors, la magie de la chasse, dont on a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Une des premières, c'est le chamanisme. Très très vite, l'abbé Breuil et Cartaillac, pour Altamira, défendent l'idée du chamanisme.
L'abbé Breuil, c'est quelqu'un d'important aussi, on peut en dire.
Oui, alors c'est celui qui a le plus œuvré sans doute pour la reconnaissance d'un art préhistorique, pour l'authenticité de l'art préhistorique. Hein, parce qu'il y a eu longtemps un débat pour savoir, est-ce que c'est vraiment préhistorique, est-ce que c'est vraiment de l'art. Toutes ces questions se sont longtemps posées. De quand ça date vraiment? Vous êtes bien sûr que c'est pas le berger du coin qui, pendant qu'il s'ennuyait à surveiller ses moutons, a été faire des gribouillis dans une grotte. Bon.
D'autant qu'il y a eu quelques falsifications. Hein.
Oui, mais bon, très peu. Oui. Très peu. Oui. Voilà. Sur le nombre, c'est vraiment négligeable. En tout cas, lui, il a passé une grande partie de toute son activité de préhistorien très médiatisé, très médiatique à l'époque, à défendre l'authenticité et l'importance de cet art préhistorique. Et il était appelé, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle découverte de grotte, il était systématiquement appelé pour aller l'authentifier. Hein. Mmh. Voilà, donc c'est replacer l'abbé Breuil dans ce contexte-là. Et donc lui, dès le début, il a, dès les années 1900, hein, début des années 1900, en 1906, il a défendu cette idée que c'était probablement chamanique, en comparant avec des traditions esquimaux, nord-amérindiennes, faisant tout un comparatisme très 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 large, comme ça. Et puis, c'est un petit peu retombé. Dans les années 50, ça a été relancé par un auteur allemand, Et puis récemment, ça a été représenté comme une nouvelle théorie, alors qu'en fait pas du tout, c'est une des plus anciennes qui soit, et avec des arguments qui peuvent s'entendre, mais moi ce que je me dis à propos de ces interprétations, il s'agit toujours de répondre à la question pourquoi ces gens ont été s'embêter à faire des images là dans les cavernes. Bon, il y a sûrement une raison, et on peut se dire c'est une raison suffisamment forte pour braver ces difficultés et pour prendre des risques aussi physiques, hein, tout simplement.
Et puis ça dure longtemps.
Et puis pendant longtemps, sur une très longue période, donc ça devait être quelque chose quand même d'assez important. Voilà. Alors, les explications ont été rapidement religieuses. De type religieux au sens très large. Hein. Donc le chamanisme, disons que ça en fait partie, une motivation de type religieux. Et donc il y en a eu d'autres, hein, totémisme, il y a toute une série d'interprétations de ce type-là qui ont été proposées. Et moi ce que je me dis, il y a aussi des gens qui disent « Oh mais cette question-là, nous, préhistoriens, on ne se la pose même pas parce que de toute façon, on ne saura jamais ». Ce qui n'est pas faux, hein, ça s'entend très bien, ça, de dire, effectivement, je peux émettre des hypothèses, comment les vérifier? Ça, c'est quand même une question difficile, quoi. Et une deuxième façon de dire, c'est de dire, mais de toute façon, c'est des images, donc les images appellent l'interprétation, notre esprit est fait de telle manière que quand on regarde une image, ça y est, on commence à réfléchir, imaginer des trucs, et donc on peut imaginer tout ce qu'on veut. Comment savoir que ça correspond bien à l'intention des gens qui ont fait l'image? On ne saura jamais. Et plein de préhistoriens disent, c'est même pas une question de préhistorien, ça. Ça nous intéresse pas. Nous, on s'occupe d'autres trucs. On s'occupe de faire de dater, d'analyser, etc. Mais ça, c'est pas une question pour nous, en fait. Bon. Et moi, ce que je me dis, c'est que c'est quand même une question intéressante. Il n'empêche qu'elle reste, cette question, même si elle est très difficile à aborder. Et que tous les gens qui ont essayé de répondre ont oublié une chose, à mon sens. Alors, tous, ils ont dit, mais ceux qui ont répondu avant moi en donnant une autre explication se sont trompés. Moi, je vais vous donner une autre explication qui est meilleure. Bon, ça, c'est humain. Bon. Mais tous ont oublié de dire que leur explication s'appuie sur des éléments est-ce que c'est bien sûr que ces éléments-là existaient au moment où les peintures ont été faites ? Si je reprends l'exemple du chamanisme, et je veux dire, bon, je veux expliquer les images par autre chose qu'elles-mêmes, en fait. Donc là, le chamanisme, le totémisme, ce que vous voulez. Bon. Eh bien, il faut que je prouve, d'abord, que le chamanisme existait bien au moment où les images ont été réalisées. Parce que si, par exemple, quelqu'un me démontre que le chamanisme, en fait, c'est un truc très récent, que ça a été inventé, créé, bricolé à l'âge du bronze, bon, ben, c'est même plus la peine d'en parler pour l'art préhistorique des cavernes. Hein. Personne n'a fait cette démarche préliminaire qui consiste à dire bon, je vais essayer d'expliquer les images par autre chose qu'elles-mêmes, mais cette autre chose, je vais d'abord vous démontrer que ça existait bien au moment où les images ont été faites.
Expliquant, donc
je
me suis dit. S'expliquant d'homme.
Exactement. Ouais. Bon, je ne vais pas employer des mots savants, mais voilà, en gros, il y a un grand épistémologue des sciences qui a formalisé ça en disant ben voilà, il y a l'explicandum. Alors, c'est des mots latins. Ça permet de parler plus rapidement plutôt que de faire des grandes phrases. L'explicans, c'est ce qui va permettre d'expliquer quelque chose, et l'explicandum, c'est ce qu'on cherche à expliquer. Donc là, l'explicandum, c'est l'art des grottes. L'explicans, ben, c'est le totémisme, l'art pour l'art, la magie de la chasse, ce que vous voulez, par lequel on va essayer d'expliquer. Ben, le premier truc à faire, c'est de montrer, enfin essayer en tout cas, de montrer que explicans et explicandum sont bien contemporains, sinon ben, vous risquez un énorme péché qui est l'anachronisme.
Oui, alors moi j'avais évidemment pas mal de réactions. Enfin, alors déjà pour commencer, bah effectivement, c'est quelque chose qu'on entend. Je l'ai entendu d'ailleurs d'un collègue il y a pas longtemps, c'est que sur l'art des grottes, on n'aura jamais la réponse. Et c'est vrai que c'est un souci. Cela dit, je dirais bien que c'est un problème qui se pose en réalité pour absolument toute la préhistoire. Dès lors qu'on sort de l'étude purement technique des datations, d'écrire des formes, etc. Mais je dirais bien que si on étudie des outils, si on étudie des campements, si on étudie des alimentations, etc., si ce n'est pas pour être capable au-delà de reconstituer les sociétés, je ne vois pas très bien en réalité à quoi ça sert. Et là, on a de toute façon ce problème-là qu'il faut bien scolter. Un autre aspect peut-être quand même sur ce problème de chamanisme, de totémisme ou de tout ce qu'on voudra, isme. Et moi, j'ai le sentiment aussi, c'est que on ne sait jamais très bien de quoi on parle en réalité, outre le problème que tu dis qui est consistant à savoir de quand ça date, mais ce sont des mots qu'on emploie d'autant plus facilement qu'ils sont en réalité assez mal définis. Alors on avait déjà discuté ensemble y compris de la possibilité même de parler de la religion en général, qui est un sujet compliqué, mais en tous les cas ne serait-ce qu'une, comment dire, une cartographie raisonnée, une classification qui marche un petit peu des systèmes de croyances, etc. En réalité, je ne pense pas qu'on en ait. Et que du coup, quand on parle de totémisme, de chamanisme, de chamanisme, d'animisme, etc., on ne sait pas toujours très bien. Alors, en France, récemment, il y a Philippe Descola qui a proposé une classification. Je ne suis pas convaincu complètement qu'elle fonctionne. J'ai quelques réticences, on va dire. Mais après tout, de toute façon, ça se discute. Mais en tous les cas, c'est quand même aussi une des grosses difficultés. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le chamanisme ? Qu'est-ce que c'est que le totémisme ? Et je ne suis même pas sûr que tout le monde soit bien d'accord là-dessus.
Je suis même sûr que tout le monde n'est pas d'accord. Et donc, c'est effectivement une des difficultés supplémentaires, c'est que ça fait partie de ces mots très très vagues qui permettent des discussions très longues à la fin desquelles personne n'est d'accord, parce que personne ne parlait de la même chose, en fait, tout simplement. Et donc, là, non seulement il faut d'abord s'assurer de dire, ben, quand je dis chamanisme, moi je désigne tel truc. Voilà, je vais expliquer en deux mots ce que c'est que le chamanisme, et après je vais dire, bon, ben, ce que je considère comme chamanisme, est-ce que ça existait au moment, au temps de l'ornementation des cavernes? Et est-ce que je peux trouver dans les cavernes quelque chose qui peut confirmer qu'il y a un rapport entre les deux? Et ça, c'est quand même une série de démonstrations qui, pour moi, si on prétend faire un peu de science, quoi, est absolument nécessaire et qui, pratiquement, n'a jamais été faite. Quand même curieux.
Alors, il y a toutes ces tentatives d'interprétation qui aboutissent donc à des questionnements plus qu'à des réponses, finalement. On voit bien, et tu les passes vraiment toutes en revue de manière méthodique. Hein, en cela, ton travail est tout à fait...
Oui, je pense que c'est d'ailleurs ce qu'occupe la plus grande part du livre, en
bien
réalité,
sûr, oui, il me semble. Oui. C'est ça, c'est vraiment sur quelle méthode, avec quels outils on travaille et pour tenter de comprendre tout ça. Et toi, tu proposes une autre approche. Et tu sors du cadre, en quelque sorte. Et ce qui est intéressant dans ta démarche, c'est, en fait, ce qui est important dans cette histoire, c'est la grotte, finalement.
Oui, moi, je n'essaie pas de trouver des raisons d'être à telle ou telle image particulière, ni même à l'ensemble des images d'une grotte. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de trouver le contexte dans lequel ça a été réalisé. Les préhistoriens ne sont pas d'accord entre eux, entre ceux qui disent « de toute façon, ça ne m'intéresse pas, on n'en sait rien, on peut dire que des bêtises, on imagine tout ce qu'on veut, mais tous les coups sont permis, donc bof, puis on ne pourra jamais prouver, donc voilà. » Ce n'est pas très intéressant comme question, finalement. Ceux qui disent « ah ben quand même, moi j'ai quand même un peu l'impression qu'il y a des éléments qui tirent du côté de l'animisme, par exemple, ou du chamanisme. » Bon, voilà, il y a toutes ces discussions qui sont très intéressantes, mais en gros, ils ne sont pas d'accord entre eux, quand même. Et il y a, depuis quelque temps, il y a une unanimité, si on entend les interviews, par exemple autour de l'exposition du Musée de l'Homme en ce moment, revient le terme de mythologie. Les gens vous disent « ah, c'est mythologique ». Bon. Ou « bah oui, c'est mythologique ». Alors, mais moi, je me dis « mais attends, mais quand tu dis c'est mythologique, c'est quoi ? Qu'est-ce qui n'est pas mythologique, en fait, dans les cultures ? Qu'est-ce qui n'a pas de rapport avec la mythologie ? Mais rien, tout simplement. Donc dire que c'est mythologique, c'est ne rien dire du tout. » Le fait de dire, comme on l'entend souvent maintenant, de plus en plus souvent, de la part de préhistoriens, y compris parmi ceux qui sont très réticents à interpréter, hein, de dire bon, c'est mythologique. En fait, c'est pas dire grand-chose. Moi, ce que je leur demande, c'est ben, de quoi on parle quand on parle de mythologie. Tout est mythologique, si on veut. Si la mythologie, c'est un discours sur le monde, bon, bah ben, évidemment, qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un discours sur le monde dans l'art des cavernes, comme dans mille et une autres manifestations culturelles. Est-ce qu'on pourrait pas aller plus loin et dire, mais attends, si la question de mythologie, donc doit y avoir des mythes, donc des récits particuliers, précis, et est-ce que là, de quoi on parle ? Quel récit on peut évoquer ? Et la réponse, systématiquement, c'est de dire, mais non, mais là, c'est encore plus dur comme question et encore plus impossible que la précédente, puisque les récits, c'est oral, et que les récits de la préhistoire, on les retrouvera jamais, puisque les paroles s'envolent, les images restent, les paroles s'envolent, bon, et donc c'est mort. Jamais on retrouvera les récits de la préhistoire. Et là, je dis, c'est vrai, si on utilise des outils des préhistoriens. Les outils des préhistoriens sont merveilleux, magnifiques, ça a fait des progrès ces dernières années qui sont considérables, il y a un niveau de technicité incroyable, et ces outils sont extrêmement bien adaptés à étudier la composition des pigments, dont on parlait plus haut, à dater en faisant des prélèvements qui sont microscopiques, et à faire des tas d'analyses qui sont magnifiques et qui sont très intéressantes, parce que ça nous permet de constituer un contexte chronologique, etc. Mais c'est des outils qui sont absolument inutiles pour parler de mythologie. Si j'applique ces outils à n'importe quel tableau qui se trouve dans nos musées, je prends, je sais pas moi, le radeau de la Méduse, voilà, et que j'applique des outils du préhistorien en disant, oh, ce tableau, qu'est-ce que je peux en dire ? Je vais analyser les pigments, je vais le mesurer, je vais trouver la provenance des pigments, peut-être, je vais pouvoir dater la toile, dater les pigments, est-ce que c'est la même époque, s'il y a eu des reprises, etc. Et une fois que j'aurai fait ça, qu'est-ce que j'aurais appris sur le radeau de la Méduse ? Strictement rien. C'est ce que font les préhistoriens. Alors, je dis ça, ça peut paraître un peu méchant, mais pas du tout. C'est simplement que chacun son métier. Et qu'ils ont des outils merveilleusement bien adaptés à faire ce type de travail et qui sont complètement ineptes pour traiter de mythologie. Ceci dit, à ce moment-là, tournons-nous vers les gens dont c'est le métier de travailler sur la mythologie, qui ont aussi des outils depuis deux siècles, disons, qu'on fait de la mythologie comparée, et qu'on arrive à remonter dans le temps aussi en étudiant les mythes. La préhistoire, c'est une machine à remonter dans le temps, bon, mais il y en a d'autres. Et une de ces machines à remonter dans le temps, c'est la mythologie comparée, qui permet de retrouver des mythes du passé, y compris quand on n'en a pas de traces écrites. Ça peut paraître un peu, de l'ordre de la magie, si je dis ça sous cette forme-là, mais il y a des techniques, notamment, on a comme chez nous, parmi les gens connus qui ont fait ce genre de travail, Lévi-Strauss et Dumézil, qui permettent de remonter dans le temps et de retrouver des mythes dont on n'a pas de traces écrites.
Alors voilà, ça c'est la question la plus passionnante dont tu traites dans ce livre, et c'est aussi une question que tu as traitée par ailleurs sur les mythes les plus anciens et aussi sur la répartition de ces mythes. Alors ça c'est quelque chose vraiment de très très neuf. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose de tout à fait novateur. Est-ce que tu peux nous exposer justement ces méthodes, les méthodes actuelles, hein, il y a eu celle de Lévi-Strauss et de Dumézil que tu as rappelé, celles qu'on utilise aujourd'hui, elles ont évolué aussi, hein, comme les outils des préhistoriens, ces outils des mythologues. J'ai appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait une classification des contes et des, si on peut dire un mot, de ces Finlandais et Américains qui ont travaillé là-dessus. C'est intéressant parce que justement il y a un parallèle.
Oui, alors il y a une longue tradition de classification des contes où l'école finlandaise, notamment, parce que ça c'est né en Finlande avec quelqu'un qui s'appelle Antti Aarne, qui a essayé de mettre un peu d'ordre, parce que les contes traditionnels, il y en a des milliers. Simplement, lui, il gérait une bibliothèque et il voulait classer sa documentation. Donc il a trouvé un système de numérotation des contes qui permet d'unifier et de classer les contes de façon que tout le monde s'y reconnaisse facilement, rapidement. Bon. Et donc ça a été le premier pas vers une technique d'étude des traditions orales, et en particulier des mythes et des contes, où on essaye de voir si, par exemple, telle ou telle histoire, c'est des histoires tout ça, hein, telle ou telle histoire est racontée partout dans le monde, ou simplement à certains endroits. Donc on pressent tout de suite que c'est pas la même chose, et que on voit bien que l'histoire de l'histoire va être différente. Si on a un récit, un mythe qui est raconté, ben je sais pas moi, uniquement en Afrique, nulle part ailleurs, et puis qu'on en a un autre qui est raconté uniquement en Australie, ou un autre qui est raconté ben, en Eurasie et nulle part ailleurs, ou en Eurasie en Amérique du Nord. Bon, on a des voilà, si on peut mettre au jour des répartitions de ce type, ça pose tout de suite des questions, et puis ça induit assez rapidement des réponses possibles. S'il s'agit de... Alors évidemment, si on fait ça avec des choses très simples, des petits bouts d'histoire qui se racontent en deux minutes, bon, on peut se dire, oui, comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'il y a des convergences d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Bon, c'est des choses qui tombent un peu sous le sens tôt ou tard. On peut trop rien dire. Mais si c'est des récits complexes, qui tombent pas du tout sous le sens, avec des tas de détails compliqués qu'on retrouve, ben, qu'on va retrouver par exemple dans toute l'Eurasie et puis en Amérique du Nord, et nulle part ailleurs. On peut se dire, mais comment ça se fait? En fait, c'est curieux. Il faut expliquer à la fois pourquoi on le trouve dans tel continent et dans tel autre, et puis pas du tout dans les autres. Et si on fait des cartographies comme ça de grands mythes, ou d'éléments de mythes même, ce qu'on appelle les mythèmes, eh bien, on peut s'apercevoir que il y a des zones de continuité, des zones de, disons, de continuité géographique, et que les histoires se sont répandues. Notamment, on voit très vite qu'il y en a qui ont passé le détroit de Bering et qui sont racontées à la fois en Eurasie et en Amérique du Nord, tout simplement parce que l'Amérique du Nord, et l'Amérique en général, a été peuplée à partir de l'Eurasie. Et que donc les gens qui ont peuplé le nouveau continent, ils sont passés le détroit de Bering avec dans la tête leurs histoires, leurs contes, leurs mythes, leur façon de voir le monde, et qu'ils l'ont conservé, et qu'ils ont continué à raconter les mêmes choses une fois qu'ils étaient passés de l'autre bord. Je schématise, et tout ça s'est fait un peu plus lentement que ce que je suis en train de dire, mais c'est ça qui s'est passé quand même.
Mais alors, quel rapport avec la grotte ?
Eh bien, tout simplement, ça permet de dater les histoires, puisque s'ils sont passés par le détroit de Bering au moment où on pouvait passer à pied, c'est pas tous les jours, ça. Et donc, il y a un moment où le détroit de Bering s'est refermé, où c'était pratiquement impossible de passer, ou en tout cas extrêmement difficile de passer, et que donc là, les histoires qui sont passées, elles sont passées au moment où du peuplement de l'Amérique, et le peuplement de l'Amérique, c'est avant 16 000, avant notre ère. Et donc, avant, alors combien avant, c'est une autre discussion, mais disons que là, on a une date à partir de laquelle c'est plus possible. Et donc, telles histoires qu'on peut reconnaître, qui répondent à ces critères, on peut se dire, ah ben celles-là, elles ont au moins 16 000 ans. En appliquant la même démarche à d'autres seuils de passage du peuplement du globe, on sait par exemple que l'Australie, elle a été peuplée, on discute sur les dates, mais grosso modo 60 000 ans. Bon, la sortie d'Afrique s'est faite aussi à un moment précis et pas tout le temps. Bon,
il faut préciser, pardon, pour la sortie d'Afrique, il y en a eu plusieurs, mais c'est la dernière sortie.
La dernière, des humains qu'on dit nous, hein, voilà. Les, si je peux dire, les anatomes. anatomiquement moderne. Oui. Bon. Tout ça s'est fait, il y a eu des seuils, des moments où les gens sont passés d'un continent à l'autre, et ça nous donne des fourchettes de dates. Et si on peut prouver qu'une histoire est passée comme ça, en même temps que les humains qui l'ont colportée avec eux, et bien ça nous permet de dater l'histoire. Et ça nous permet de montrer que certaines histoires remontent à la préhistoire, certains mythes, certains contes remontent à la préhistoire, et que certains remontent à une époque qui est contemporaine du moment où les grottes ont été ornées.
Donc si je comprends bien, si une histoire est diffuse sur une très grande surface, ou quasiment tout le globe terrestre, ça voudrait dire qu'elle est très ancienne.
Alors, il faut vérifier dans le détail, mais c'est une forte probabilité. Oui.
Et donc, il y a une histoire très ancienne.
Alors, la question à la réponse qui consiste à dire « Ah, mais tout ça, c'est mythologique. Il y a de la mythologie là-dedans, en parlant de l'art des grottes. Hein. » Pour moi, la question subsidiaire, c'est de dire « Ah, d'accord, mais alors, quel mythe peut bien coller avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent ?» C'est-à-dire, il faudra trouver un mythe qui parle de grottes, quand même, qui a un rapport quand même avec les grottes, et un rapport essentiel, pas anecdotique. Il faut que, vraiment, la grotte, c'est un élément essentiel de l'histoire. Il faut que ça nous parle d'animaux, voilà. Il faut que ça nous parle d'humains aussi, puisqu'il y a des humains. Et si possible, ce serait bien si c'était des humains bizarroïdes, un peu animaux. On a évoqué ça tout à l'heure, ce qu'on appelle les théranthropes, c'est un demi-humain, un demi-animaux, bon, voilà. Si on pouvait trouver une histoire comme ça, ça collerait bien, quoi. Et en fait, justement, il y en a une. Et on peut prouver, par la méthode de l'aréologie, c'est-à-dire l'aire de répartition des histoires telles que je viens de décrire, mais aussi par d'autres méthodes qui sont empruntées aux phylogénéticiens, que cette histoire était contemporaine de l'ornementation des grottes.
C'est le mythe de l'émergence.
C'est le mythe de l'émergence primordiale. Ah. C'est, alors, en deux mots, parce qu'évidemment, on peut prendre beaucoup de temps pour la raconter, il y a des variantes très très longues, notamment chez certains Amérindiens, où il faut vraiment quelques heures pour la raconter, donc là, je ne vais pas faire ça, mais grosso modo, ça consiste à dire, à l'origine, les humains et les animaux vivaient sous terre, et suite à diverses circonstances que raconte le mythe, hein, et qui peuvent être très détaillées, ils sont sortis à l'air libre par une grotte, et ils ont peuplé le monde. Voilà. Et donc là, la grotte est absolument essentielle, puisque c'est le passage entre le monde primordial où vivaient tous les êtres animés, en fait, et le monde actuel, le monde terrestre de la surface, où maintenant vivent les animaux et les humains.
Et donc, grâce à ces méthodes, donc, qu'on n'a pas le temps de détailler, il faudrait refaire une émission complète, hein, mais ça, peut-être, hein, qu'on va la faire, mais grâce à ces méthodes, on arrive donc à... Et à des méthodes aussi, tu l'as cité, d'aérologie, c'est-à-dire qu'on va chercher quelle est l'aire de diffusion de cette histoire, de ce récit, de ce mythe. On va pouvoir donc dire, celui-là, c'est le plus ancien, il a les caractéristiques que tu viens de donner, et ça pourrait nous donner une explication de pourquoi, à un moment donné, des hommes de la préhistoire sont allés dans les grottes.
C'est-à-dire que c'est un mythe de création et c'est un mythe d'origine de l'humanité. Hein. Et donc ça, ce type de mythe, d'abord, c'est des mythes qui résistent beaucoup au changement. Quand on a un groupe humain qui a coutume de raconter une histoire pour expliquer son existence même et son origine, il n'en change pas comme de chemise, en général. Hein. Donc ça fait partie de ces mythes qui résistent plus que les autres au changement, à l'emprunt, etc. Et c'est un mythe cadre, je dirais. Le but de l'opération, c'est pas du tout d'expliquer la scène du puits ou telle image. Le but de l'opération, c'est de dire, voyons, les gens qui ont été orner les grottes. Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête comme grand mythe primordial justifiant leur existence au monde, quoi. Comme pratiquement tous les groupes humains ont un récit qui explique pourquoi ils sont là et pourquoi les autres aussi sont là, pourquoi on est différents les uns des autres, etc. Tous ces grands mythes primordiaux, tout montre, disons, par les démarches que j'ai trop brièvement résumées là tout à l'heure, tout montre que s'il y avait un mythe primordial à l'œuvre au moment où les gens ont orné les cavernes, c'était celui de l'émergence primordiale. Et donc, ma conclusion, c'est de dire, moi, je ne peux pas croire, si ce mythe était le grand mythe d'origine à cette époque-là, je ne peux pas croire que les gens aient été dans des cavernes pour représenter des animaux et représenter des êtres humains un peu bizarroïdes à moitié animaux, sans avoir ça en tête.
Alors moi, je vais me faire Je ne sais pas si c'est l'avocat du diable, mais en tous les cas, en tous les cas, celui qui peut essayer de mettre à l'épreuve, disons, ton hypothèse, alors qui, moi, telle qu'elle, me semble tout à fait convaincante, et en tous les cas, qui mérite d'être, absolument d'être prise en considération et qui n'arrive pas, comment dire, comme sans argument. Hein. Moi, il y a une première question, c'est si le mythe de l'émergence est un mythe universellement répandu, ou quasi universellement répandu parce qu'il aurait été remplacé depuis dans un certain nombre d'endroits, mais enfin voilà, s'il existe très largement à la surface du globe, comment expliques-tu qu'on ne trouve justement qu'un art des cavernes que dans un endroit du globe? Est-ce que c'est pas contradictoire? Est-ce qu'on ne devrait pas retrouver le même type de représentation un peu partout?
Alors on en trouve pas un peu partout, mais on en trouve dans d'autres endroits, parce que par exemple on en trouve en Amérique du Nord et en Mésoamérique, et en Amérique du Sud, bon, donc c'est pas que là. Et ensuite, il y a la question du rapport entre l'art et la mythologie, et en fait, l'art n'est pas un reflet de la mythologie, il y a pratiquement pas de raison à part à des époques récentes, depuis les Grecs et l'Antiquité, de représenter les mythes. Puisque les mythes, on les vit par les rites, on les revit par les rites, ou on les dit, puisque c'est des récits, et on les illustre pas, enfin, dans les traditions, dans l'immense majorité des peuples du monde, évidemment, racontent des mythes sans les illustrer. Donc il n'y a pas une nécessité d'illustrer les mythes. Là, je prends le truc à l'envers, c'est-à-dire, bon, y a un endroit du monde où on a beaucoup, il n'y a pas que là, mais il y a beaucoup, beaucoup de grottes tournée, et on est tous d'accord, disons les préhistoriens, y compris les plus sceptiques, pour dire oui, il y a quelque chose de l'ordre de la mythologie, on voit pas trop qu'est-ce qui a pu motiver ça. Eh bien, le mythe de l'émergence n'a pas été illustré dans les grottes, simplement c'était le mythe cadre. Et donc, il justifie cette idée de retourner rituellement dans la grotte pour réactiver la création, avec une idée, une deuxième idée qui est de dire que la création est continue. C'est-à-dire que nous, dans nos cultures, disons, influencées par la Bible, le Coran, tout ça, on a cette idée que la création, elle a lieu une fois. Enfin, si on est croyant, mais même, on a cette idée quand même que quand on a créé un truc, c'est fini. C'est créé. Bon, y compris dans notre activité humaine. Mais à un niveau mythologique, divin, par exemple, bon, on a cette image de la création. Le septième jour, le dieu, il a fini, il se repose. Bon, c'est fini. On n'en parle plus. Bon, voilà. Après, ça va tout seul. Bon.
Mais ça, c'est une... le temps a un sens...
Il y a une flèche qui se dirige forcément vers la droite. Bon, voilà. Donc ça, mais c'est une vision du monde qui est très provinciale, je dirais, à l'échelle du monde. C'est très limité, c'est très récent et très limité. Énormément de peuples du monde ne voient pas les affaires comme ça et pensent que la création continue. Oui, il y a eu une création, mais ça continue. Puis en plus, non seulement ça continue, mais il faut s'en occuper parce que ça risque de s'arrêter. Si ça s'arrête, c'est une catastrophe. Évidemment, ça va être la fin du monde. Et donc, le rituel, ça consiste à réactiver la création du monde. Et donc, par exemple, de retourner dans une grotte pour rejouer la création du monde et faire que le monde continue d'être.
On est malheureusement tenu par le temps, voilà. On a fait que effleurer toutes les questions que nous voulions encore te poser, Jean-Loïc, mais j'espère qu'on aura peut-être l'occasion de poursuivre plus tard cette passionnante discussion sur la mythologie, l'émergence et l'origine de toutes ces affaires-là. Je rappelle le titre de ton livre, La caverne originelle, art, mythe et premières humanités aux éditions La Découverte, Jean-Loïc Lekelec. C'est passionnant de bout en bout, vraiment. Ça vaut vraiment, vraiment le coup de lire et d'approfondir toute cette littérature. Merci à toi, en tout cas, d'avoir exposé.
Merci.
Merci à Christophe aussi, cette discussion. Et puis, c'est bientôt le solstice d'hiver. Alors, c'était le moment ou jamais de parler
de retourner dans les grottes
et de parler de mythologie. À très bientôt, au revoir à tous.